Le journal, Séverine Boé.
Bonjour, le Pluskill Festival se tiendra en juin à Bienne. La manifestation a subi de plein fouet la tempête et les intempéries l'an dernier. Pour parler de l'après 2025 et de cette nouvelle édition, nous accueillons dans un instant Nina Pigny, responsable de la programmation et de la coordination. Le Forum économique mondial ouvre ses portes ce soir. Une soixantaine de chefs d'État se déplaceront à Davos. La personnalité la plus attendue est sans doute le président américain Donald Trump. Une présence qui interpelle les parlementaires. En Espagne, un accident ferroviaire a eu lieu hier entre deux trains à grande vitesse dans la région de Cordoue. Le dernier bilan fait état de 39 morts et 152 blessés. Les stratus et les brouillards pourraient être tenaces aujourd'hui en dessous de 700 mètres d'altitude. Ailleurs et au-dessus, les conditions seront lumineuses mais sous un ciel traversé de nuages d'altitude dont la fréquence et l'opacité pourraient être quelque peu renforcées par un afflux de sable du Sahara. Le Pluskill Festival fait son retour à Bienne. La manifestation se tiendra en deux parties entre le 12 et le 21 juin. La dernière édition du festival en 2025 avait subi de plein fouet la tempête et les intempéries. L'organisation a notamment dû faire appel à la générosité pour mettre sur pied cette 14e édition. Pour en parler, nous recevons en direct par téléphone Nina Pigny, responsable de la programmation et de la coordination du Pluskill Festival. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
2025 a été difficile à cause de la tempête. Quel regard vous portez avec un peu plus de 6 mois de recul ?
Ça a été un événement qui a été évidemment très difficile, autant pour les Biennois, Biennoises, que aussi vraiment pour nos équipes. On a été très choqués, évidemment. On a eu la grande chance d'avoir aucun accident de personne. Donc ça, on en est vraiment très, très heureux et heureuses. Maintenant, il y a du temps qui est passé, on a séché nos larmes, on a repris notre courage à deux mains et on s'est relancé dans une nouvelle aventure.
Vous avez lancé un appel aux dons. C'est grâce à cet argent que vous pouvez aujourd'hui organiser cette édition en 2026 ?
Oui, c'est vraiment ça qui nous a permis d'éviter la faillite. On avait une perte de 25 000 francs. Et grâce aux dons de personnes privées, mais aussi de rabais sur facture de nombreux partenaires et aussi d'artistes, ça nous a permis de clôturer cette année, de clôturer l'année et de pouvoir anticiper, enfin de commencer à travailler sur une édition à venir. Je voulais dire un grand, grand merci en fait. Je voulais dire un grand, grand merci à toutes ces personnes qui ont aidé au projet à survivre.
La manifestation se tiendra en deux parties. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est le risque météo. Donc, on s'est dit qu'en organisant le festival sur deux week-ends, ça nous permettait de contrer un peu ce risque qui a un impact direct sur nos recettes dont on est encore très dépendant. La deuxième raison, c'est aussi la question de l'infrastructure. C'est-à-dire que c'est énormément de travail. On travaille toute l'année pour préparer le festival. On a un grand temps de montage, c'est environ une semaine. Et après, ça passe très, très vite, 5 jours. Donc là, on avait envie de dire, on fait un peu plus long. Ça nous permet éventuellement d'avoir aussi un impact sur nos recettes. Mais aussi, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps dans ce bel environnement qu'est le festival.
Plus longtemps, ça veut dire que vous aurez aussi besoin de plus de bénévoles ?
Probablement, bien. Ça c'est tout à fait possible. On fera un appel aux bénévoles bientôt. On n'a pas eu trop de difficultés en 2025 à trouver des bénévoles, donc on a encore confiance que les bénévoles seront là au rendez-vous pour cette année, on l'espère en tout cas.
Du côté de la programmation, des artistes professionnels du monde du cirque, du théâtre, de la danse ou encore des musiciens se produiront auprès Neptune. Nouveauté cette année, vous êtes également à la recherche de compagnies non professionnelles de la région. Pourquoi cette nouveauté ?
Alors, ce qu'on a décidé, c'est pour ne pas prendre trop de risques pour cette édition 26, l'enveloppe générale pour les compagnies professionnelles n'a pas augmenté. C'est-à-dire qu'on ne double pas la programmation professionnelle. On va plutôt l'étaler sur ces deux week-ends qui nous créent en fait de l'espace pour donner la place en fait à des compagnies amateurs qui auraient peut-être envie de se présenter chez nous dans des conditions professionnelles.
Merci Nina Pigny d'avoir été en direct dans le journal. Je rappelle que vous êtes responsable de la programmation et de la coordination du Pluskill Festival. Je vous souhaite une excellente suite de journée.
Merci à vous aussi.
À noter encore que cette année, le Pluskill Festival figure parmi les nominés du prix Assitège Suisse, une distinction nationale majeure pour le théâtre et les arts vivants destinés au jeune public. Une biennoise brille à la Star Academy. Depuis le 18 octobre dernier, Léa Dauphet est comme coupée du monde extérieur dans son château français où elle est formée par des professionnels. C'est à travers un écran de télévision que sa famille suit ses exploits lors des émissions quotidiennes et des primes du samedi. Depuis le début de l'aventure, ses proches se rassemblent chaque week-end dans un bar biennois pour la soutenir à distance. Ils suivent ses performances et vibrent au son de sa voix. Samedi passé, notre consoeur du journal du Jura, Maëva Plénès, a rejoint Jean-Luc et Loïc Dauphet, le père et le frère de Léa.
On est un peu au milieu de l'émission. On a vu pour l'instant Léa chanter avec Laura Pausini. Quelle est votre réaction après avoir vu ce duo, Jean-Luc ?
C'était court, j'entends, mais oui, c'était beau. On était content de l'entendre, content de la voir. C'était magnifique, ouais.
Loïc ?
Qu'elle chante bien, c'est plus une nouveauté, mais c'est toujours bien de la voir aussi avec des grandes artistes comme Laura Pausini et vraiment être à la hauteur des deux filles qu'on lui pose là, pendant la Star Academy. Qu'elle relève avec brio.
À chaque fois, elle est capable de relever les défis.
Qu'est-ce que ça vous fait aussi d'être là, sur place, en famille, pour soutenir un peu la fille prodige ?
C'est sympa, l'ambiance est bonne. Après, je préfère encore voir à la télévision, avoir un bon son, une belle image, être tranquille. Mais autrement, oui, c'est sympathique d'avoir de la famille qui est là pour soutenir Léa, pour nous soutenir, pour participer.
Il y a pas mal d'ambiance.
Oui, il y a de l'ambiance. Ouais.
Je crois qu'il y a peut-être Léa qui chante, donc on va peut-être faire une pause.
Oui,
c'est peut-être allez. Important de la voir.
C'est la même avec les gars et les filles.
Voilà, du coup, maintenant, il y a eu la deuxième chanson de Léa, Hypersensible. Comment c'était, Jean-Luc ?
C'était beau, elle a bien chanté, c'était magnifique, bien aimé.
Elle est elle-même hypersensible, du coup, ça résonnait.
Oui, ça lui va bien, ça lui va bien. C'est une chanson qui lui va bien.
Loïc ?
J'ai aussi vraiment adoré, puis le duo avec Charles, l'ancien candidat, ça montre aussi où elle pourra éventuellement aller dans les années qui suivent. J'espère que ce sera elle, une invitée de l'année prochaine.
Alors là, pour l'instant, il n'y a pas trop de pression parce que Léa a l'immunité, mais est-ce que vous avez un petit pronostic pour la suite de l'aventure ?
Pronostic, c'est difficile à faire parce que tous les candidats sont bons, ils ont tous leur chance d'arriver jusqu'en finale. Mais on espère que Léa aille le plus loin possible encore. On espère même qu'elle gagne la finale. Mais après, ça, c'est peut-être beaucoup demandé.
Moi, je suis toujours optimiste. Je dis qu'elle va passer les demi-finales. Et la finale, on verra, vu que c'est vraiment le public qui décide. C'est plus en termes de chant. Ils méritent tous d'être là où ils sont aujourd'hui. Ben, nous, on fera notre mieux, que ce soit avec les votes, la cagnotte, pour essayer de l'emmener le plus loin possible.
Des propos recueillis par Maëva Plénès du journal du Jura. Deux demi-finales verront s'affronter deux duos. Pour Léa Dauphet, ça sera ce samedi 24 janvier face à Sarah. Les gagnants s'affronteront ensuite pour décrocher la grande victoire de la Star Academy 2025. À noter que le sort de la seule candidate suisse encore en lice dépend des SMS du public français. Une cagnotte a été lancée pour convertir les dons en votes. Jérôme Chevillat reprendra la direction ad intérim de l'ESC, la Neuville, durant 2 ans. Il remplacera Marika Odermatt qui prendra sa retraite anticipée au 31 janvier. Jérôme Chevillat est l'actuel vice-directeur de l'école supérieure de commerce, indique la direction de l'instruction publique et de la culture dans un communiqué aujourd'hui. Les autorités bernoises ne vont pas légiférer tout de suite sur les engins pyrotechniques. Plusieurs cantons, dont ceux de Neuchâtel et du Jura, ont pourtant récemment annoncé l'interdiction de ces feux dans les lieux clos. La direction bernoise de l'économie, de l'énergie et de l'environnement nous indique qu'elle entend attendre les résultats des consultations en cours auprès des acteurs concernés dans le cadre de la révision des prescriptions de protection incendie, ainsi que la décision des instances intercantonales compétentes avant d'envisager d'éventuelles adaptations. Une 60aine de chefs d'État se retrouvent cette semaine à Davos. Le Forum économique mondial ouvre ses portes ce soir. La station Grisonne accueille notamment Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et Javier Milei. Mais la personnalité la plus attendue est le président américain Donald Trump qui fera le déplacement avec une large délégation et devrait prendre la parole mercredi après-midi. Sa venue est un bon signal, estime la conseillère aux États du Parti du Centre Isabelle Chassot.
Oui, ça n'a pas de doute que c'est positif pour la Suisse. D'abord que le président américain, qui se déplace et ne se déplace pas très souvent, vienne effectivement à Davos. C'est une occasion unique pour le Conseil fédéral de le rencontrer. On sait les difficultés qu'il y a eu de pouvoir avoir un contact direct avec lui. C'est également l'occasion de replacer Davos et la Suisse avec Davos sur la carte mondiale et de replacer la diplomatie helvétique aussi sur la carte mondiale.
La sénatrice souligne que tout espace de dialogue est le bienvenu dans cette période de crise du multilatéralisme, mais elle ne s'attend pas à des avancées majeures avec les États-Unis. Un avis partagé par le conseiller national libéral radical Damien Côtier, qui observe avec inquiétude les décisions prises par Donald Trump depuis sa réélection. Damien Côtier.
Dans certains dossiers, il apporte aussi des éléments de solution. On a vu que sa pression sur le dossier de Gaza, sur le dossier de l'Ukraine, peut permettre des améliorations. Malheureusement, il y a aussi beaucoup, beaucoup de dossiers, on l'a vu avec la Suisse, mais pas seulement. On le voit avec le Groenland, on le voit avec ce qui s'est passé au Venezuela, qu'il a aussi une manière de faire très brutale qui peut déstabiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux dans un monde où il y a déjà des tensions. Donc il y a une grosse inquiétude. Après, on voit qu'il a aussi tendance à bousculer les choses et ensuite à les apaiser. C'est aussi sa technique de négociation. Donc il faut travailler, activer la diplomatie pour résoudre le plus possible ces tensions. Par exemple, la question au Groenland soit résolue par une discussion diplomatique. Et si la Suisse peut aider, bien évidemment, tant mieux. C'est comme ça qu'il faut avancer. Il ne faut pas être ni optimiste ni pessimiste, il faut travailler.
Un sujet réalisé par notre correspondante à Berne, Marie Vieumier. 4 conseillers fédéraux feront le déplacement à Davos cette semaine, dont le président Guy Parmelin et le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis. Le bilan est lourd en Espagne après l'accident ferroviaire qui s'est produit hier soir dans le sud du pays, dans la province de Cordoue. Il fait désormais état d'au moins 39 morts et plus de 120 blessés. Un train qui transportait 317 passagers et que reliait Malaga à Madrid a déraillé vers 19h50. Il a alors envahi la voie opposée où circulait un autre train avec une centaine de personnes à bord. Les détails de notre correspondant en Espagne, Mathieu de Taillac.
C'est un train de la compagnie italo-espagnole Irio qui a déraillé le premier hier vers 19h50. Au moins 2 de ses wagons ont ensuite envahi la voie opposée, percutant un train de la compagnie publique espagnole Renfe. Ce dernier voyageait en sens inverse de Madrid vers l'Andalousie et le choc a projeté 2 de ses wagons dans un talus de 4 mètres. L'impact a été très violent. Les passagers interrogés par les médias espagnols témoignent d'une sensation de tremblement de terre. Pour l'heure, c'est l'incompréhension qui règne en Espagne. Le ministre des Transports, Oscar Puente, a avoué tout ignorer des causes de la tragédie. L'accident est extrêmement étrange, a-t-il jugé, survenu sur une ligne droite et sur une infrastructure récemment rénovée. Le train lui-même avait à peine 4 ans, il avait subi une révision il y a seulement 4 jours. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a atterri vers 9h30 à Cordoue pour se rendre sur le lieu de la catastrophe. Le roi Felipe VI et la reine Laetitia ont prévu de s'y rendre demain.
Avec un bilan provisoire de 39 morts, la collision entre deux trains à grande vitesse hier soir en Espagne est déjà la 6e catastrophe ferroviaire la plus meurtrière en Europe depuis 2000. La pire catastrophe avait déjà eu lieu sur territoire espagnol, en Galice, dans la banlieue de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2013. Un train avait déraillé et fait près de 80 victimes. Un accident lié à un défaut d'attention du conducteur et à une vitesse excessive.
Il est 12h29 sur RJB, Séverine Boé. On va faire un tour du côté du vestiaire pour voir ce qui s'y passe.
RJB Sport.
Louis Matt n'est plus l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois de Swiss League de hockey sur glace a annoncé ce matin avoir démis ses fonctions avec effet média. Son technicien, un Canado-Suisse. Les récents mauvais résultats et l'état général de l'équipe ont convaincu le conseil d'administration de limoger Louis Matt pour insuffler un nouveau souffle en vue de la fin du championnat. L'actuel 3e de Swiss League avait déjà annoncé il y a plus de 2 mois que le contrat de l'entraîneur ne serait de toute façon pas prolongé au terme de la saison. Un scénario incroyable pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le titre est revenu au Sénégal hier à Rabat. Les Lions de la Teranga ont battu le Maroc 1-0 après prolongation. Ils ont privé le pays hôte de soulever le trophée devant son public. Le Sénégal a remporté sa 2e CAN après 2022. Cette finale a connu un dénouement particulier. Les précisions de Florian Wolfer.
Les dernières minutes du temps réglementaire de cette finale resteront gravées dans les mémoires. Dans la dernière minute du temps additionnel, l'arbitre a accordé un pénalty au Marocain signalé par la VAR pour une faute sur le meilleur buteur du tournoi, Brahim Diaz. La délégation sénégalaise a longuement protesté, d'autant qu'on leur a refusé un but en début de temps additionnel pour une faute litigieuse. Certains joueurs ont quitté la pelouse avant que Sadio Mané ne les ramène sur le terrain. Près de 15 minutes après la décision du pénalty, Brahim Diaz a échoué en tentant une panenka dans les bras d'Edouard Mendy. Le but de la victoire sénégalaise a finalement été marqué par Pape Gueye à la 4e minute des prolongations.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné ce lundi des scènes inacceptables lors de la finale de la CAN. Le Valaisan met en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match. Le président de la FIFA a rappelé « Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain ». Stan Wawrinka s'est offert un 159e succès en Grand Chelem ce lundi à Melbourne, mais le premier depuis Wimbledon 2024. Le quadra vaudois a renversé Laszlo Djere 5-7-6-3-6-4-7-6 au premier tour de l'Open d'Australie. « Je suis si heureux d'avoir gagné pour pouvoir jouer encore une fois. J'espère que je ferai encore un bon match », a lancé au public qui l'acclamait Stan Wawrinka. Au second tour, le tennisman de Saint-Barthélemy affrontera le qualifié français Arthur Géa. Et dans le tableau féminin, moins de succès pour Simona Valtert. La grisonne s'est inclinée au premier tour à 6-3-6-2 face à la numéro 4 mondiale, l'américaine Amanda Anisimova. Merci d'avoir suivi ces informations. Excellente suite de journée à l'écoute d'RJB.
RJB Sport.